Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, comme tous les jeudis, le réveil culturel se fera en musique et aujourd'hui en compagnie d'Ibrahim Malouf. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter en direct à la radio tous les matins à 6h ou quand vous voulez en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Le réveil culturel avec à la coordination ce matin Sophie-Catherine Gallet, à la réalisation Massimo Bellini, à la prise de son Alain Joubert.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Et un nouveau disque pour Ibrahim Malouf. Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour.
Levantine Symphonie numéro 1. Est-ce que ce mot, c'est un mot qui vous a accompagné, le Levant?
Complètement. Complètement. Ça a commencé... ça a commencé avec mon oncle Amine qui, dans son livre Les Échelles du Levant, trace
Amine Malouf, ouais, effectivement.
Amine Malouf qui trace une très belle fresque de cette région à travers une histoire, mais une fiction. Mais et puis ça a grandi, évidemment, ça a grandi dans ma tête pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, je me sens levantin.
Même si ça se dit plus aujourd'hui, hein. On le dit plus de nos jours.
On devrait le redire.
Ouais. Pourquoi?
Parce que on peut être turc, on peut être arabe, on peut être de toutes les religions chrétiennes, chrétiens, juifs, musulmans, peu importe. Si on vient de cette région-là, il y a des choses qui nous unissent. Une culture levantine, un esprit levantin. On est bercé entre l'Europe de l'Est, le Golfe, l'Asie, l'Afrique. Il y a quelque chose qui, on est au centre un peu de toutes ces cultures là, et c'est que je trouve que c'est une richesse et qu'on devrait la mettre en valeur au lieu de toujours aller chercher nos différences.
La dernière fois qu'on a employé ce mot levantin, c'était pour parler de Youssef Chahine. 10 ans après sa mort, la Cinémathèque s'apprête à lui rendre hommage avec cette semaine l'ouverture d'une grande exposition qui sera accompagnée d'une rétrospective. Mais vous entendez bien, Ibrahim Malouf, que on parle voilà d'un réalisateur qui a vécu dans une ville cosmopolite, Alexandrie, qui ne l'est plus et qui vient d'un monde qui a disparu.
Je ferai pas, je serai pas aussi définitif que vous.
D'accord, parce qu'effectivement, avec l'histoire, tout peut basculer.
D'abord, et puis aussi parce que moi j'ai visité Alexandrie, je l'ai trouvé très cosmopolite. Alors c'est vrai que ma grand-mère, qui est toujours vivante d'ailleurs, qui s'appelle Odette, qui a 97 ans, a vécu à Alexandrie, a été une Libanaise d'Alexandrie, une Libanaise de l'Égypte. Faisait partie de ces communautés.
Comme Youssef Chahine.
Comme Youssef Chahine, exactement. Ils se connaissaient même, je vais vous dire. Donc il y avait je pense qu'il y a une sorte de, d'idéalisation du passé aussi. C'est très à la mode, ça, en ce moment, aujourd'hui, de considérer que, il y a 50 ans, à tel endroit, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il y avait des problèmes. Il y avait peut-être moins de monde aussi. Il y avait moins de chômage. Il y avait moins de terrorisme, moins de je sais pas quoi. Donc, d'un seul coup, aujourd'hui, on a une vision extrêmement noire, sombre, et du présent et de l'avenir. Moi, je fais pas partie de cette vague-là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je continue d'employer un mot comme le Levant et que je me considère comme levantin, tout en me considérant, attention, hein, comme 100% français, 100% arabe, 100% libanais, 100% musicien, 100% amateur de falafel, 100%, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a pas de catégorie, il y a juste des cultures qui se superposent les unes aux autres. C'était d'ailleurs le sujet d'un autre livre de mon oncle Amine qui s'appelle Les Identités meurtrières, avec lequel je suis en adéquation totale depuis presque 20 ans maintenant, et qu'on devrait enseigner un peu partout dans les écoles.
Et s'il fallait parler de ce disque, votre arrivée dans le monde de symphonique, c'est un rêve d'enfant que vous réalisez, ou c'est une manière de dire, moi, le Levantin, j'appartiens aussi à une culture plus universelle, qui est celle de la musique classique?
J'ai été élevé dans la musique classique. D'ailleurs, et la musique classique arabe, et la musique classique occidentale, qui d'ailleurs ont énormément de points communs dans la musique classique arabe.
C'est quoi la musique classique arabe?
On en reparle de l'Égypte, du coup, mais...
C'est Mohamed Abdel Wahab et Oum Kalsoum?
Par exemple, oui, ce sont des figures symboliques, mais très importantes de ce répertoire-là. Mais c'est tous ce qu'on appelle les Mouachahat. Il y a une sorte de tradition qui s'est construite, dont le berceau est l'Égypte, qui d'ailleurs est un point central dans le dialogue entre l'Afrique et l'Orient. À la fois une culture arabe et en même temps sur le continent africain, donc c'est assez passionnant, à l'instar des autres pays du Maghreb évidemment, mais il y a un lien avec le Levant justement, c'est pour ça que j'en parle. C'est un pays levantin aussi. Donc il y a l'Égypte a été un berceau de la musique classique orientale arabe et on entendait ces violons classiques jouer à la manière symphonique de la musique arabe. De la même manière que pendant longtemps, pendant le mandat français, dans les villages libanais, partout dans les villages libanais, même les villages les plus lointains, fondus dans l'arrière-pays libanais, il y avait des fanfares à la française sous le mandat français. Donc on avait des gens qui sortaient les tubas, les euphoniums, les trombones à coulisses, les trompettes, et qui jouaient comme on jouait dans les fanfares de la campagne française.
Pour ce disque, vous êtes au piano, Ibrahim Malouf.
Oui, alors j'ai pas répondu sur un des aspects de votre question précédente.
Qui est
ma découverte, enfin en tout cas une sorte de d'intégration dans la culture musicale symphonique classique. J'ai vraiment baigné dans cette musique classique occidentale. J'ai fait toute ma scolarité. J'ai commencé tout petit puisque mes deux parents étaient musiciens classiques et sont musiciens classiques. Ma mère est pianiste et mon père trompettiste et j'ai écouté et été éduqué à la musique classique et la musique baroque et la musique contemporaine et la musique moderne. Toutes les musiques qu'on considère comme étant ce qu'on appelle la musique classique dans sa globalité. J'étais éduqué à ça. Je suis entré au conservatoire régional de Paris à l'âge de 17 ans. Je suis entré au conservatoire national supérieur de Paris à 19 ans. J'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à l'âge de 23, 24 ans. Donc c'est ma culture. J'ai toujours travaillé et étudié et évolué dedans. Mais c'est vrai que les gens me connaissent, enfin le grand public me connaît plus sous l'aspect de la pop, du jazz, des musiques du monde, etc. Les concerts qu'on fait dans les Zéniths à Bercy, les collaborations que je fais à droite à gauche. Mais en réalité, ma culture maternelle, c'est 100% la musique arabe et 100% la musique classique occidentale.
C'est bizarre de dire aujourd'hui « ma mère était pianiste » parce que on a l'impression que vous étiez le fils de votre père jusqu'au jour où vous décidez de vous mettre derrière le piano et rendre hommage à votre mère, Ibrahim Malouf.
Non, j'ai commencé à jouer du piano avant de jouer de la trompette.
Ah ouais.
Mais c'est vrai que je me sens pas légitime. C'est parce que j'ai pas fait d'études de piano. J'ai toujours appris à jouer du piano de manière autodidacte. Je compose tout au piano, mais même toutes mes musiques de films, quand vous entendez du piano, c'est moi qui joue. Mais c'est vrai que je me cache un peu. J'ai jamais trop présenté ça. Peut-être maintenant un peu plus.
Pourquoi? Parce que votre mère était excellente joueuse de piano.
Oui, elle était une très bonne musicienne. Après, elle a créé une école de piano dans la région des Tempes. Ils ont une centaine d'élèves aujourd'hui avec plein de profs et tout. Mais c'est pas tellement été ça. Non, c'est plus au contraire. Parce que j'ai fait mes études à la trompette, mes études supérieures, que j'ai présenté ce qu'on appelle les concours internationaux, que j'ai gagné ces concours. C'est comme ça que je me suis fait connaître au début. Hein. C'est pas à travers le jazz. Hein. Donc du coup, je me sens plus légitime d'avoir cet instrument dans les mains et de jouer devant les gens. Mais par contre, c'est quelque chose qui risque de changer bientôt.
Et ce disque peut-être annonce le changement.
Une transition. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une sorte de transition.
C'était un extrait de votre album, Ibrahim Malouf, Levantine Symphonie numéro 1. C'est quoi l'idée? C'est de retranscrire dans un répertoire classique des mélodies, des souvenirs de mélodies, des vraies musiques?
Pas tout à fait.
Dites-nous.
C'est parti d'une conversation que j'ai eue avec une personne qui a été fondamentale dans cette symphonie, qui s'appelle Jamal Daniel, qui est à l'initiative, qui est un homme d'affaires en fait, libanais-syrien qui habite aux États-Unis et qui est à l'initiative d'une organisation qui s'appelle The New Levant Initiative, qui vise à encourager encourager un peu tout le monde à voir le Levant comme étant une unité culturelle, une unité économique, etc. Donc c'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai créé cette symphonie. À la toute première conférence de cette organisation.
Donc aux États-Unis, et pas en Turquie, pas à l'Opéra du Caire.
Non, c'était important justement de faire ça sur un territoire un peu
éloigné,
influent. Non, mais qui peut avoir une influence forte sur les choix qui sont faits. C'est pas stratégiquement, c'était important. On a joué ça à Washington, au Kennedy Center, qui est un endroit très prestigieux évidemment, avec l'orchestre, ce qu'on appelle l'Opera House de Kennedy Center, l'orchestre symphonique du Kennedy Center de Washington, avec la National Children Choir, qui est la maîtrise, la chorale d'enfants, donc la maîtrise nationale des États-Unis, donc qui sont basés à Los Angeles, Washington et New York. Ils ont réuni un peu tous les chanteurs et on a fait cette création.
Quand vous dites « on », c'est vous-même, Ibrahim Malouf, et vos musiciens habituels ?
Exactement. Plus l'orchestre symphonique, plus la maîtrise. Tout ça créé pour l'ouverture et la fermeture de cette conférence internationale autour du Levant. Là, c'était une commande donc de cette personne-là. Et c'est vrai que toute la construction de cette symphonie a été basée sur l'idée qu'il fallait un thème fort. C'est celui qu'on vient d'entendre d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est ce thème-là.
Alors, il vient d'où ce thème ?
C'est un thème que j'ai composé en me disant il faut, mais toute proportion gardée. Évidemment, je ne veux pas que les gens se disent pour qui il se prend. C'est pas ça, mais une sorte d'hymne du Levant. Créer un nouvel hymne du Levant avec de l'espoir, avec une sorte de... avec une sorte de grandeur dans le thème, quelque chose d'assez pas martial, mais vous voyez ce que je dirais, comme un thème fort qui reste, qui soit chantable par les enfants, parce que les enfants c'est la nouvelle génération, c'est le futur, c'est ceux qui vont nous suivre, nous survivre après. Et donc l'idée c'était qu'il y ait ce thème qui revient à chaque fois de manière différente, donc on l'entend toujours le même qui revient de manière différente, et ensuite il y a ces sortes de digressions qui d'un seul coup on sort de ce thème-là, le thème nous amène quelque part dans un endroit différent à chaque fois. Et alors c'est comme une sorte de voyage, si vous voulez, avec un côté un peu cinématographique comme ça, où c'est ce thème-là qui unit plein d'esprits différents, plein de cultures différentes. Donc il y a des moments où on va partir vers quelque chose de très jazz, d'autres moments on va partir vers quelque chose d'un peu plus péchu, un peu plus rock, on va dire. D'autres moments, ça plus funk, plus ceci, plus cela, plus oriental, plus occidental.
Mais ce socle-là, cet air-là...
Voilà, c'est ce thème qui est la base de la symphonie.
Ce thème-là, nos oreilles perçoivent tout de suite quelque chose qui vient d'Orient. Mais comment l'expliquer ? Est-ce que on compose différemment quand on compose de la musique orientale ou levantine, Ibrahim Malouf ?
Alors, je ne saurais pas vous dire, parce que moi, j'ai les mains dans la pâte. Donc, je dirais que vous savez, c'est comme...
Je n'étais pas du genre à dire, je vais utiliser le quart de ton.
Non, c'est pas ça. Non, c'est comme... Moi, je fais souvent cette comparaison-là quand on me pose cette question. Souvent, on me demande comment je travaille pour mélanger les esprits, les différentes cultures, les univers culturels dans une musique. Et je dis souvent, je fais pas du tout exprès. Enfin, c'est devenu une sorte de raisonnement logique quand on essaie d'analyser peut-être d'une manière ou d'une autre ma musique. Mais moi, je l'analyse pas ma musique, je la crée. Et je laisse les gens l'analyser.
Alors, comment vous la créez ?
Mais juste un peu comme quelqu'un qui a un accent. Mm-hmm. Ma mère, par exemple, quand elle parle, elle roule les R. Elle fait pas exprès. Elle se dit pas, tiens, je vais rouler les R parce que comme ça, ça va montrer que j'ai des origines arabes. Elle roule les R naturellement. Elle se pose même pas la question.
Par contre, roule pas les R de la même manière au Caire qu'à Beyrouth.
En plus, mais je veux dire par là, voilà, moi, ma manière de composer, c'est comme ça. Je entre guillemets, roule les R ou j'ai des accents, je parle avec mes mains ou des choses comme ça. Il va y avoir une partie de ce que je compose qui va avoir des influences orientales, mais je les choisis pas, si vous voulez, je les calcule pas.
Juste même quand il s'agit de répondre à une commande, parce que là c'est pour.
J'arrive pas à répondre à une commande, moi.
Ouais.
Là vraiment, en parlant avec lui, j'ai senti que ça faisait partie de moi. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire.
Ouais.
C'est ce Levant qu'il me décrit, ce multiculturalisme. Peut-être idéalisé pour certains, mais rêvé et souhaité fortement, et qui est nécessaire même, et même, je dirais, indispensable aujourd'hui, ce multiculturalisme-là, je l'ai en moi, et donc quand on me demande de l'exprimer, j'ai pas besoin d'aller chercher des heures, vous voyez, j'ai pas besoin de creuser, j'ai pas besoin de faire une analyse, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le créer. C'est pas comme si on demandait d'un seul coup, je sais pas moi, un autre compositeur... Je ne vais pas citer d'autres compositeurs, mais vous voyez ce que je dis.
De s'adapter à
un univers.
À l'autre univers.
Exactement.
Mais vous pensez à quoi ? Quand vous composez la musique, et plus particulièrement Ibrahim Malouf, quand vous composez cette symphonie, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête ? Il y a des images, des souvenirs, des sensations ?
Il y a... je pense beaucoup à ma fille et à l'avenir. Je vois des rêves que j'avais moi quand j'étais jeune, quand j'avais l'âge de ma fille, et que je voyais, par exemple, mais c'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est pas ça, mais quand je me rappelle moi quand j'avais l'âge de ma fille, donc ma fille elle a 9 ans aujourd'hui, moi à 9 ans, j'allais en vacances dans un pays en guerre civile depuis le début de ma vie. Depuis que je suis né, j'allais en vacances dans un pays en guerre civile. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai connu ça. Quand j'étais petit, je rêvais d'être architecte. Vous m'avez demandé avant l'émission qu'est-ce que je voulais faire qu'est-ce que j'avais fait comme études avant de faire de la musique. Moi, je voulais faire des études d'architecture. Donc, j'étais dans un cycle scientifique. Je voulais vraiment faire ça. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que j'avais des rêves.
De reconstruire ce pays qui était en guerre, le Liban, votre
évidemment.
Pays.
C'était mon rêve. C'est ce qui m'a permis ensuite de me lancer dans la musique, de créer des musiques et de devenir une sorte d'architecte sonore, si vous voulez, à la place de l'architecte civil. Mais génie civil. Mais donc quand je compose, j'essaie de rester d'une certaine manière un peu cet enfant de 9 ans qui est devenu ma fille aujourd'hui. Qu'est-ce que serait son rêve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait? Donc j'essaie de poursuivre ce rêve-là, de pas baisser les bras. Cette Levantine Symphonie numéro 1, c'est, et j'ai volontairement écrit numéro 1, parce que d'habitude on n'écrit pas numéro 1. On écrit une symphonie, on dit symphonie ceci, puis on n'écrit pas numéro 1. On écrit quand c'est numéro 2. Donc volontairement, j'ai indiqué numéro 1 pour dire, voilà, c'est le début de quelque chose, il ne faut pas que ça s'arrête. Il y a un rêve, il y a une sorte de quête, d'idéal. Il y a des gens qui vont dire, cet idéalisme, il est utopique, etc. Il y a d'autres comme moi qui disent, non, il faut poursuivre, il faut persévérer. Puis finalement, on aura certainement un jour ou l'autre un Orient stable, un Levant stable, avec un multiculturalisme exemplaire. Je l'espère en tout cas, c'est ce que je souhaite à ma fille et aux générations futures.
Je pourrais dire que c'est le Levant raconté à ma fille que vous venez de réaliser, Ibrahim Malouf.
Musicalement, allez.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Levantine Symphonie numéro 1, composée par Ibrahim Malouf, créée aux États-Unis, à Washington, c'est bien ça?
C'est ça, Kennedy Center, oui.
Et là, c'est enregistré à Paris avec le Paris Symphonic Orchestra, le chœur d'enfants représenté par la maîtrise des Hauts-de-Seine, et accompagné par vos musiciens habituels,
Ibrahim. François Delporte, Franck Wust, Stéphane Galland.
Comment on compose une symphonie?
Grande question. Comment on compose une symphonie? Alors, moi, ma symphonie, elle est un peu... elle est différente des symphonies traditionnelles, évidemment. Je vais chercher des inspirations actuelles aussi, comme un peu à l'instar de ce qu'on vient d'écouter. Donc,
il y a un côté fanfare là dans ce qu'on vient d'écouter.
Il y a un moment où il y a cette fanfare orientale qui arrive. Mmh. Mais alors j'aime bien, voilà, par exemple là, pour ceux qui sont en train d'écouter cet extrait, évidemment tout le monde s'est rendu compte. Il y a un moment, il y a une rupture et d'un seul coup on entend des trompettes faire. Voilà. Donc ça, c'est ce côté oriental qui parfois peut paraître un tout petit peu surprenant parce que
pour ne pas dire inapproprié, c'est ça, c'est ça le mot que vous cherchez.
C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ça, si vous voulez, Tufik. Mais en fait, si vous voulez, il y a un moment où cet Orient, parfois, il est complètement mêlé dans la mélodie. Et il y a des moments où il nous surprend, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Et ce que j'aime bien, par exemple, dans l'extrait qu'on vient de passer, par exemple, pourquoi j'ai eu envie de créer une rupture comme celle-là. Parce que vous m'avez demandé comment j'écris une symphonie. Donc, en fait, tout est, c'est un peu comme une musique de film. J'essaie de raconter quelque chose. Alors, tout n'est pas calculé, évidemment, ce qu'on disait, mais il y a quand même parfois des volontés. Une volonté de rupture d'un seul coup, d'arriver avec des cuivres comme ça qui cassent un peu les... On était dans un truc un peu cool, un peu presque soul à des moments, un peu avec un rythme un peu à l'américaine et tout. Puis d'un seul coup, bam, tout s'arrête et puis ces cuivres orientaux qui arrivent. Cette rupture-là, elle est volontaire. Parce que juste après cette rupture, d'un seul coup, on est surpris qu'il y ait des trompettes qui arrivent comme ça. C'est limite, ça, presque ça dérange un peu les oreilles. Et puis juste après, dans les secondes qui suivent, on se rend compte que ça s'intègre complètement dans ce qui était en train d'exister juste avant que ça arrive. C'est-à-dire que il y a une rupture, et puis finalement le rythme revient, et puis les deux se mélangent super bien.
Comment voilà. Vous imaginez les instruments de musique qui accompagnent votre composition au piano?
Alors ça, c'est très subjectif. On peut avoir, on a tellement de choix différents.
Vous faites beaucoup d'essais, par exemple, ou vous avez une idée à peu près nette dans votre esprit quand vous composez?
Ouais. Ça dépend. J'aime beaucoup travailler de manière complètement spontanée. C'est-à-dire, une chose est proposée, je la garde, même parfois quand ça m'embête ou que ça me dérange. Mais des fois, je fais des erreurs même.
Mais là, vous êtes chef d'orchestre.
Mais je les garde, mes erreurs. Attention.
Ouais.
Je fais des erreurs et je les garde. Et je me dis, si j'ai fait cette erreur, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc au moment où je deviens chef d'orchestre, au moment où je dois diriger ça, je dois être convaincu que ce que j'ai fait, c'est ce que je veux garder, non pas ce que je voulais faire, ce qui est différent.
À quel moment vous êtes convaincu que c'est la bonne musique, c'est ce que vous vouliez, c'était...
Quand, une fois que c'est terminé, ça tient la route. Pour moi, la perfection dans la musique, c'est si ça procure de l'émotion. Miles disait, à quoi ça sert de faire 10 000 notes s'il y en a une qui touche? Donc pour moi, c'est ça la perfection aussi, c'est de dire, il y a un moment où ce qu'on est en train de dire, c'est juste, et ça touche la personne. Alors c'est peut-être pas les meilleurs mots qu'on a choisis, on a peut-être été maladroit dans les mots, on a peut-être bafouillé à un moment donné, mais c'est ce petit bafouillage peut-être qui va vouloir dire quelque chose. Je suis un lacaniste, si vous voulez.
Très bien, le 18 et 19 janvier, vous allez justement jouer cette Levantine Symphonie numéro 1 en public. Est-ce que vous avez composé pour le public ou est-ce que ça reste
toujours?
Toujours.
Ouais, moi je prends toujours en considération. C'est presque plus important pour moi que les gens me comprennent que je m'exprime. C'est plus important que les gens comprennent ce que je dis pour moi que le fait même que je.
Mais enregistrer un disque, c'est s'exprimer aussi, hein.
C'est s'exprimer, mais c'est installer quelque chose dans le temps de manière un peu rigide. C'est-à-dire, j'ai rien contre les disques, je continue à les faire, je trouve ça super de pouvoir faire ça, ne serait-ce que pour que les gens nous encouragent en achetant le disque, parce que sinon on n'arriverait pas à continuer à faire notre métier, hein. Les artistes, si on n'a pas des gens qui nous écoutent, on peut pas continuer. Encore une fois, si je fais une comparaison avec la radio, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a besoin des autres, donc on a besoin d'être compris, on a besoin d'être aimé. On a besoin d'être apprécié. Donc le disque, il est important parce qu'il installe une sorte de mémoire, mais en même temps, on fige. Donc j'aime le disque pour ce qu'il offre, pas plus que ce qu'il offre. Moi, je ne cristallise pas dans le temps le disque en lui donnant une valeur plus importante que ce qu'il est. Je ne glorifie pas l'enregistrement, par exemple. Je pense que l'interprétation live est beaucoup plus importante. Et je trouve que ce qui est plus beau, c'est l'interprétation live enregistrée.
Ce que vous venez de faire, il y a un album qui sort, enfin une clé USB avec...
Et un album aussi, en fait, de DVD.
Et un album DVD
de Bercy.
De Bercy, où on voit que vous prenez un plaisir fou à inviter des chanteurs, hein, ce soit Oxmo Puccino, Amadou et Myriam, M.
C'était une soirée incroyable, parce que j'ai fêté mes 10 ans d'albums et de tournées. On a fait 3h30 de concerts. un Bercy plein à craquer, où les gens sautaient dans tous les sens, où on a chanté, on a fait la fête, on a... C'est comme une grande fête de la musique.
Ce sera où les 18 et 19 janvier?
À la scène musicale à Boulogne, la scène musicale.
Ouais, et c'est une salle plutôt spécialisée encore.
Il y a de tout, je crois.
Et ben ça, c'est parfait pour vous, Ibrahim Malouf.
C'est parfait. Mais c'est vrai que c'est un endroit. Alors c'est tout nouveau encore, hein, donc ouais. On est en train d'expérimenter, mais j'aime beaucoup cet endroit. Je trouve ça vraiment chouette. Il y a une sorte de melting pot culturel, générationnel. J'aime bien, j'aime vraiment bien cet endroit.
Merci d'être passé ce matin, Ibrahim Malouf.
C'est moi qui vous remercie.